Radio Classique, l'invité de l'économie.
Nicolas, 7h17, vous recevez Jean-Philippe Hameu, président de la FESIC.
Bonjour Jean-Philippe Hameu.
Bonjour.
La FESIC qui regroupe une vingtaine d'établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif, dont l'ESSEC par exemple, la grande école de commerce de banlieue parisienne. On va y revenir. Il y a aussi parmi elles l'IESSEG, que vous dirigez depuis 1994. C'est une école post-bac, basée à Lille et à La Défense, à Paris, qui s'est hissée au cinquième rang dans le classement du Financial Times sur les meilleurs masters de management en France. Et ce qui vous vaut aujourd'hui le surnom de HEC des écoles post-bac. Comment vous analysez un tel succès, qui est sur le papier assez phénoménal quand même?
Je pense que ça rejoint une analyse que vous avez déjà faite, d'ailleurs lorsque Jean-Michel Blanquer était venu ici, c'est-à-dire que les établissements d'enseignement supérieur ont besoin d'autonomie, ont besoin de travailler en équipe, ont besoin d'objectifs clairs pour être performants, et c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous sommes complètement autonomes, puisque nous sommes une association, nous ne dépendons pas d'actionnaires, nous ne dépendons pas de l'État ou d'une chambre de commerce. Nous avons la capacité à faire travailler les gens ensemble, les professeurs par exemple, pour un projet commun. Et donc nous avons ensemble, notamment sur trois axes, la formation, la qualité, de la formation, la qualité de la recherche et la qualité de l'international. Et c'est ça qui fait notre succès notamment.
Il y a des critères bien précis qui permettent de mesurer le succès d'une école de commerce. Je crois que la quasi-totalité de vos étudiants décrochent un emploi dans les trois mois qui suivent leur diplôme.
Oui. La majorité trouve avant de sortir de l'école, effectivement. Donc ça, c'est un indicateur qui nous paraît très important au niveau de l'IESSEG, au niveau de la physique.
Vous êtes une école post-bac qui, a priori, donc n'est pas dans ces écoles post-prépa, qui ont normalement le privilège des meilleurs étudiants, des meilleurs lycéens. Pourtant, vous avez des critères de sélection très relevés. Par exemple, le niveau d'anglais exigé à l'entrée de l'IESSEG est supérieur à celui exigé à l'entrée d'HEC.
C'est surtout le niveau de sortie. Le niveau d'entrée est assez élevé, mais on veut surtout qu'à la sortie de l'école, ils soient complètement à l'aise en langue anglaise et que ce soit des professionnels du marketing, de la finance, des ressources humaines, quel que soit le domaine, complètement à l'aise dans la langue qui est la langue du business au niveau mondial. Malheureusement, ce n'est pas le français.
Tous les cours sont en anglais ?
95% des cours sont donnés en anglais.
Ouais, ça c'est une spécificité, c'est ce qui fait l'une des clés de l'attraction, l'attractivité de l'école.
C'est un des indices d'internationalisation de l'école. 84% de nos professeurs ne sont pas français, donc ce qui est le taux le plus élevé en France, surtout que la plupart d'entre eux ont eu leur doctorat dans les meilleures universités mondiales. Et on a décidé d'enseigner en anglais depuis une quinzaine d'années, parce qu'on a constaté que l'enseignement supérieur se globalisait, qu'on allait accueillir de plus en plus de jeunes venant d'autres pays, mais aussi que nos diplômés travailleraient dans un monde globalisé et que l'anglais, dans le domaine du management, était un outil essentiel.
C'est un cursus qui coûte cher, ça n'est pas une surprise, 46 000 euros, je crois, de frais de scolarité sur l'ensemble du programme IESSEG en master.
Voilà.
Et vous préconisez dans le cadre de la FESIC, donc cette association de 25 écoles d'enseignement supérieur, la mise en place de prêts à remboursement adaptés aux revenus. Ça correspond à quoi ?
Alors l'idée, c'est que l'enseignement supérieur français doit faire face à trois défis. Un défi quantitatif, il y aura 335 000 étudiants de plus à former d'ici 10 ans, au moins 335 000. Un défi qualitatif, puisque on a un taux d'échec qui nous paraît trop élevé, notamment en licence, et aussi une adaptation tout à fait insuffisante des jeunes formés aux besoins du marché du travail, ce qui a révélé très clairement l'enquête McKinsey publiée en janvier 2014, c'est-à-dire que 73% alors c'est au niveau européen, mais pour la France, des chefs d'établissement interrogés pensaient que la formation était adaptée au marché du travail, 33% seulement des diplômés et 27% des employeurs. Et seulement
donc 30... un décalage entre la perception des chefs d'établissement et la réalité du travail.
Et seulement 35% des diplômés de l'enseignement supérieur français en moyenne pensent que leurs études supérieures les ont aidés à trouver un emploi, ce qui est quand même pas très bon.
Donc l'idée, c'est de quoi ? De responsabiliser les établissements via les frais de scolarité ?
Alors c'est un des éléments, c'est-à-dire il y a ce défi qualitatif, il y a un défi quantitatif, augmentation du nombre d'étudiants, donc il faut des ressources supplémentaires. Et on a un défi aussi social, parce que notre enseignement supérieur n'est pas assez ouvert sur le plan social et ne permet pas à des jeunes issus de milieux défavorisés d'atteindre des niveaux de formation élevé permettant des carrières intéressantes.
Donc, il y a beaucoup la proportion de boursiers est importante, notamment à l'ESSEC par exemple, sauf que les origines sociales des candidats, des étudiants sont souvent assez étroites, quoi. Il y a peu de fils d'ouvriers, peu de fils d'agriculteurs notamment.
De manière générale, dans l'enseignement supérieur français, c'est le cas notamment pour les formations longues, quel que soit le type d'établissement. Donc il faut que l'enseignement supérieur puisse être accessible à tous, c'est-à-dire quelque part qu'il soit gratuit pour tous, même pas 150, même pas 200 euros. Et ça, c'est possible si on considère que l'enseignement l'enseignement supérieur est un investissement et non pas une dépense courante. Donc c'est un responsable d'une rubrique économique, c'est quelque chose de bien compris. Quand vous avez fait de bonnes études, le retour sur investissement, vous pouvez l'avoir pendant des dizaines d'années. Donc c'est véritablement une logique d'investissement qu'il faut intégrer à la fois pour l'État. Quand l'État met en moyenne 1 euro dans l'enseignement supérieur, il récupère dans le temps 3 à 4 euros sous forme d'impôts supplémentaires et de cotisations sociales. Et celui qui bénéficie de l'enseignement supérieur va avoir des revenus beaucoup plus importants. Celui qui a une licence a un revenu en moyenne dans sa vie 24% supérieur à celui qui a le bac. Celui qui a un master a un revenu en moyenne 87% supérieur.
C'est une garantie pour la vie, finalement.
Du moins, ça donne des perspectives. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas financer l'enseignement supérieur comme une dépense courante, mais comme un investissement qu'on finance dans le temps.
D'où l'idée de ce prêt à remboursement.
Exactement.
Qui s'adapte aux revenus.
Exactement.
On commence à rembourser les frais de scolarité. Voilà. Une fois qu'on commence à travailler, qu'on a les revenus suffisants.
Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens disent, il n'y a pas de problème de financement de l'enseignement supérieur. C'est un problème de trésorerie et de risque. Puisqu'il n'y a pas meilleur placement que l'enseignement supérieur. Le retour sur investissement s'évalue en centaines de milliers d'euros ou en millions d'euros. Donc quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros pour financer la formation, c'est un problème d'abord de trésorerie plutôt qu'un problème de pur financement.
Y compris pour les universités.
Oui.
Ces frais de scolarité.
Oui, effectivement. Je pense.
C'est un tabou en France. Hein.
On pourrait dire en France, l'enseignement supérieur est gratuit pour tous. L'accès. Ensuite, on renvoie l'ascenseur lorsqu'on a un bon emploi, que le revenu dépasse un certain montant. Là, on pourrait prendre en charge, au niveau de ceux qui ont bénéficié de l'enseignement supérieur, environ 25% du coût de cet enseignement supérieur. L'État restant le financeur majoritaire, parce que je crois que dans le modèle français, c'est normal que l'État, qui de toute façon a un retour important sur l'enseignement supérieur, y contribue de manière importante. Donc nous ne sommes surtout pas pour un désengagement de l'État, mais un complément de ressources par des revenus qui seront injectés dans l'enseignement supérieur lorsque les diplômés auront des bons emplois.
Avec l'idée que les établissements soient responsabilisés parce que les étudiants exigent une formation
Exactement.
Par rapport aux besoins des entreprises.
Oui, parce qu'ils auront quelque part à payer plus tard, même si c'est pas une somme importante. Mmh. Et les établissements seront évalués en fonction de la capacité des diplômés à rembourser au moins une partie de ce que cela aura coûté.
Donc à trouver un job intéressant et rémunérateur.
Exactement. Et ça marche bien en Australie depuis 1989, donc je crois qu'on pourrait s'inspirer de cet exemple.
Merci Jean-Philippe Hameux, président de la FESIC, invité de l'économie ce matin de Radio Classique.